Salut et bienvenue, c'est Cécile et 90s, mettez compté, c'est Sabo Micro. Ravi de vous retrouver pour cette heure dédiée aux années 90, c'est le troisième numéro aujourd'hui. Comme d'habitude, on va s'écouter beaucoup de musique, on va aussi ressortir quelques vieux dossiers. On va parler mode et plus particulièrement du blouson Harrington et cinéma avec Last Action Hero. Comme d'habitude, on replongera dans l'actu de l'époque avec l'éphéméride et on terminera l'émission avec le disque du jour. Mais pour l'heure, place à la musique, retour à l'année 1992, voici The Cure et Friday I'm in Love.
On n'est pas venu pour foutre la merde, je demande qu'à appeler mes potes pour qu'ils nous tirent de là, c'est tout.
Traverse les décennies sans prendre une ride. C'était The Cure sur CFM Rhodes. Vous êtes dans Cile 90s, mettez compté. Et vous le savez, en fin d'émission, on décortique toujours un disque culte. Aujourd'hui, on s'attardera sur le cas Soundgarden et on va les écouter tout de suite avec Spoonman.
Speak the rhythm on your own. Salut, c'est Ted.
On s'est pas revu depuis...
Depuis la boum, je parie.
Embuscade juste derrière Soundgarden, c'était le tube imparable des Goo Goo Dolls, Iris. C'est tiré de la bande originale du film La Cité des Anges, sorti en 1998. Un film où Nicolas Cage jouait le rôle d'un ange déchu, tombé amoureux d'une humaine campée par Meg Ryan. Ça sentait bon l'eau de rose, mais c'est à vrai dire un film plutôt cool. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez, ça fait pas de mal. Voilà, c'est l'heure de l'éphéméride. On commence cette éphéméride avec un retour au 1er janvier 1996, avec une obligation qui était faite aux radios de diffuser un quota de 40% de chansons françaises. Je m'excuse d'ores et déjà auprès du CSA, mais aujourd'hui dans Silly 90s, le compte n'y sera certainement pas. 1er janvier 1999, entre en vigueur de l'euro, première devise officielle de l'Union Européenne, enfin de presque toute l'Union, les Britanniques n'y participent pas, mais ça on a l'habitude. 2 janvier 1991, Alerte à Malibu débarque sur TF1. Ça, j'en suis sûr que vous en souvenez, du moins les mecs. Les aventures du Los Angeles County Beach Patrol et de toutes ces jolies filles qui couraient sur la plage de Malibu avec leur maillot de bain rouge. Ça, c'est pas le genre de truc qui s'oublie facilement. 2 janvier 1994, deux étudiants en électrotechnique de Stanford créent le moteur de recherche Internet Yahoo, qui est devenu depuis un des plus importants groupes de services sur Internet, et vous faites peut-être partie de ses utilisateurs. 7 janvier 1998, sortie de Titanic de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. C'est le film culte, 11 Oscars, et c'était aussi à l'époque le film le plus cher du cinéma avec un budget de 200 millions de dollars. Mais l'histoire a fait qu'il est devenu aussi un des plus rentables avec quasiment 2 milliards de dollars de recettes. Et en français, Je veux mon neveu, c'était les Shérifs, mythique groupe de Montpellier, à la chaleur des missiles, extrait de leur album de 1993, Soleil de plomb. J'en profite pour vous glisser à l'oreille que les Shérifs se sont récemment reformés, qu'ils vont entreprendre une tournée en 2014 et qu'ils seront au Bikini à Toulouse le vendredi 18 avril à l'occasion du 9e Kicking Fest qui est organisé par notre ami Mister Q. Je vous encourage vivement à y aller, en tout cas moi, j'y serai.
Ouais, couille de compite. Personne t'a dit que la bouffe au micro-ondes, ça tue plus vite qu'une balle. Ces putains de burritos surgelés, c'est de la bouffe de hippie. Défoncé comme un âne. Passe-moi une bouteille de Jack, tu veux ?
Ça roule ?
Je crois que je vais me torcher la gueule ce soir.
Yeah ! Oh yeah ! I didn't get a message going to my head.
C'était les rois de la funk californienne, les Red Hot Chili Peppers avec Give It Away, premier single extrait de leur indémodable Blood Sugar Sex Magic de 1991. On prend maintenant la direction du pays de Galles avec un de ses plus beaux joyaux durant les 90s, un groupe adulé en Angleterre et complètement ignoré en France, les Manic Street Preachers et leur plus gros succès, A Design for Life, ça date de 1996. On se retrouve juste après avec notre premier dossier du jour, la pièce à conviction, un blouson, le blouson Harrington.
Take me now to see.
va causer mode aujourd'hui, et plus particulièrement d'un blouson. Ce blouson, c'est le Harrington. Le nom ne vous dit peut-être plus rien, mais si je vous parle de sa doublure au motif écossais rouge, là, je suis sûr que vous vous rappelez. Dans les années 90, c'était la star des cours de collège. C'était même l'accessoire indispensable du jeune rocker prépubère, agrémenté d'un 501 et d'une paire de Doc Martens, voire de crêpeurs à semelles compensées. Le Harrington n'était pourtant pas né la dernière pluie, puisque c'est en 1937 que la société Barracuda, une société anglaise, a commercialisé le premier exemplaire, et il s'appelait le G9. G pour golf. Faut dire que ce blouson, il était destiné à l'origine non pas au rocker, mais au golfeur, qui appréciait sa coupe courte et son tissu imperméable. Ce n'est que bien plus tard, dans les années 60, que le G9 devint le Harrington. En fait, c'est un surnom qu'il doit à la série américaine Peyton Place, où le personnage de Rodney Harrington, justement, portait souvent un G9 beige. Ensuite, il a été adopté par Elvis, Frank Sinatra, Steve McQueen et James Dean. Le Harrington a alors été entouré d'un certain glamour avant d'être récupéré par les rockers, et plus particulièrement ceux qui se réclamaient du revival Mods à la fin des années 70, début des années 80. Idem pour les Rude Boys, amateurs de ska et de musique jamaïcaine, qui, eux, aimaient bien le G9, mais dans sa version noire. Donc très vite, le G9 est devenu le symbole d'une certaine Angleterre, et ce n'est finalement pas un hasard si dans les années 90, à l'heure de la vague Britpop, on a vu des gars comme Damon Albarn de Blur ou les frères Gallagher d'Oasis porter fièrement leur Harrington. Donc quasiment inchangé depuis sa création, à part le coton qui a été remplacé par du Cool Max, le G9 de Barracuda, le seul, le vrai, l'unique, l'original, il est disponible en plus du beige, du noir et du bleu marine, désormais en kaki, en marron et même en rouge, pour la somme rondelette de 295€. Mais, je vous ai trouvé un bon plan. La société française Harrington commercialise elle aussi de très beaux modèles, et surtout beaucoup plus abordables. C'est autour de 70€. Allez faire un tour sur leur page www.harrington.fr. À mon avis, vous trouverez sûrement un blouson qui va vous aller à merveille.
Something catches my eye. It's bright as a star in the northern sky. Seems to me that's how things are. Giving and taking, little pink star. I wanna touch you.
m'avait demandé de suivre ta gonzesse et je l'ai fait. Et la vérité, c'est que je l'ai trouvée chouette.
Vous êtes calé sur CFM et vous avez bien raison, on est en plein si les 90s m'étaient comptés. On vient de se payer une bonne tranche de rock, on a commencé avec le Sugar Metal, expression déposée par le groupe lui-même. C'était Radich, puis juste derrière, le Stoner Rock, par les précurseurs du genre, les Californiens de Kios, avec Green Machine, tiré de mon album préféré de Kios, Blues for the Red Sun.
Hey Claudius. C'est toi qui as tué mon père. Monumentale erreur.
Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage.
Retiens ta main, mon doux prince.
Moi, d'où tu veux rire? Être ou ne pas être? Ne pas être.
Numéro 4.
Tu sais que le nouveau Jack Slater sort samedi soir ici à l'Odyssée.
Tu parles que je suis au courant.
Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket.
c'est un passeport pour un autre monde.
Attache ta ceinture, tu me feras plaisir.
Qui es-tu, sale gosse?
Je suis le nouvel équipier de Jack Slater.
C'est une bombe!
C'est le genre de truc que je supporte pas. Tu crois vraiment que t'es dans un truc? Je reviendrai.
Il y a que des super nanas ici. Tu peux me dire où sont les autres? Celles de tous les jours? Elles n'existent pas, parce qu'on est dans un film.
Non, c'est ça, la Californie.
Nominé aux Razzie Awards, l'équivalent américain de nos Gérard du cinéma, pire film, pire réalisateur, pire acteur et pire musique pour le titre de AC/DC Big Gun, Last Action Hero, on peut le dire, a mangé. Pourtant, cette comédie taillée sur mesure pour Arnold Schwarzenegger est devenue au fil des années un must du cinéma des années 90. Rien à voir donc avec un gentil nanar. En 1993, après les succès de Conan, Terminator, Commando et Predator, le grand Arnold avait décidé de prendre des risques et accepter ce film parodique qu'on venait de lui proposer à mi-chemin entre la comédie et le film d'action, un film où on se moque gentiment de lui et du genre qui en a fait le roi des blockbusters, le film d'action. L'histoire, elle est vraiment sympa. Grâce à un billet de cinéma magique, Danny, un enfant de 11 ans, fan de super production hollywoodienne, se trouve, avec toutes les péripéties que ça implique, projeté au cœur du quatrième opus de son héros favori, le flic Jack Slater, joué par Schwarzy. Alors, rempli de clichés inhérents au genre, avec son héros invincible, ses explosions fulgurantes, ses vidages de chargeurs, ses poursuites en bagnole et son lot de cascades démesurées, Last Action Hero fait dans un humour franchement bourrin mais ultra efficace. En plus de répliques cultes typiques des films d'action et des gags bien sentis, Last Action Hero accumule les références à des dizaines d'autres films et fait défiler devant les caméras, en plus du patron, des stars comme Robert Patrick de Terminator, Jean-Claude Van Damme, Bloodsport, Sharon Stone de Basic Instinct ou encore Tina Turner qu'on n'avait pas revu depuis les Mad Max. Défoncé par la critique, incompris par la plupart des fans de Schwarzy, Last Action Hero fut un échec retentissant. Pourtant, c'est un bel hommage qui est rendu au cinéma d'action qui, à l'époque, commençait déjà à perdre un peu de la vitesse. Il faut dire aussi que le film a beaucoup souffert de la concurrence d'un mastodonte dénommé Jurassic Park qui ne lui a laissé aucune chance et qui était sorti la même semaine. Côté musique, le film fut agrémenté d'une BO pas dégueulasse, 100% rock metal avec entre autres Alice in Chains, Anthrax, Megadeth, Aerosmith et le fameux Big Gun d'AC/DC qu'ont tellement aimé les jurys du Razzie Awards. C'est d'ailleurs ce titre qu'on va s'écouter tout de suite. Voici AC/DC et Big Gun.
Yeah.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. Il ne nous reste plus qu'à évoquer notre album culte. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas de Super Unknown de Soundgarden. On va remonter à 1993, quand il a été mis à chantier. Soundgarden, en fait, n'avait qu'une idée en tête, c'était se débarrasser des oripeaux grunge qu'on lui avait collés à la hâte et être enfin reconnu comme un grand groupe de rock, tout simplement. Faut dire que le combo de Seattle faisait partie des pionniers de cette scène qui a été métamorphosée par l'explosion d'un phénomène, le phénomène Nirvana. Et Soundgarden attendait être respecté pour ses états de service plutôt que pour cette hype qui, de toute manière, ne durerait pas. Du coup, avec ce nouvel album, Soundgarden a entrepris une mue audacieuse, exit le heavy rampant et abrasif dont était gavé Bad Motorfinger, son précédent disque, et place à un rock gorgé d'influences 70s. En fait, c'est un peu comme si tout à coup, dans le jeu de Soundgarden, Led Zeppelin supplantait Black Sabbath, les riffs de Kintail restaient toujours aussi épais, les rythmiques plombées, mais la mélodie prenait tout à coup une place prépondérante, ce qui conduit Soundgarden à signer ses titres les plus radio-friendly de sa carrière, comme Spoonman, The Day I Tried to Live et surtout l'énorme tube Black Olsen. Avec le recul, on a l'impression qu'affranchi de ses influences heavy, Soundgarden a pris un nouveau départ avec Super Unknown et que l'esprit libéré des contraintes stylistiques, il a aussi tout tenté et tout réussi. Ce qu'il a lâché en agressivité, il l'a récupéré en profondeur et en diversité. Du coup, avec Super Unknown, c'est un beau cadeau que le Quatuor a fait aux fans de rock qui, pour certains, j'en suis sûr, se délectent encore aujourd'hui des titres groovy, des incursions en territoire psyché et des compositions mid-tempo où on peut sentir toute l'influence qu'ont pu avoir les Beatles sur le songwriting de Chris Cornell, le principal compositeur de cet album. Si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, vous l'avez compris, il serait grand temps de penser à acquérir Super Unknown et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, il vous reste encore quelques heures en 2013 pour corriger cette faute de goût. Sur ce, je vous laisse avec Black Olsen. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même endroit. N'oubliez pas, il y a une page Facebook où on peut aussi passer un bon moment et pourquoi pas échanger quelques idées. Passez de bonnes fêtes de Nouvel An. Caresses et bis à l'œil. Bye bye. Come wash away the rain.
you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come?
I made a big decision. I'm going.